Lyon demain, planète pour tous.
Les difficultés du Moulin, cette entreprise de restauration engagée et responsable, bien connue à Lyon pour ses livraisons de repas en triporteur au pied des entreprises. Au départ, une boulangerie biologique artisanale créée par les frères Perraudin dans le Nord-Isère. Le jeune Tom est aide-cuisinier et plongeur dans leur auberge installée dans un moulin à céréales du 15e siècle à Morestel. Très vite, le jeune homme devient leur conseiller pour faire évoluer l'entreprise tout en conservant l'esprit recette de grand-mère. En 2006, le moulin est créé et devient le premier bar à salade. La livraison en charrette devient la marque de fabrique en 2014. Aujourd'hui implanté à Valmy et avenue des Frères Lumière, le moulin s'est installé tout récemment également dans le quartier de la Soie à l'étape 22D, une occupation temporaire mise à disposition par la métropole de Lyon. Aux confins de Villeurbanne et Vaux-en-Velin, l'entreprise a installé son labo pour l'activité traiteur au service des entreprises. Avec une croissance de 15% l'an dernier et un effectif d'environ 80 personnes, le moulin est malgré tout aujourd'hui en difficulté et a demandé son placement en redressement judiciaire. En cause, différentes dettes liées au Covid, comme le PGE, le fameux prêt garanti par l'État, qu'il faut bien rembourser. Comme en 2022, où l'entreprise avait réussi à sauvegarder son activité en vendant des cookies, le moulin entend bien retrousser les manches en 2025 pour continuer de tourner. Nous avons rencontré Tom Thielet, co-gérant du moulin.
En fait, on peut considérer que là, on est face à notre ultime défi ou notre boss final de cette période délicate 2020-2024. Donc nous, on a été très impactés par la période Covid à deux niveaux. Sur la partie événementielle traiteur, parce que cette activité a fait des on-off en fonction des différentes vagues et des mesures gouvernementales qui ont été prises. Et un deuxième niveau sur toute notre activité, plus à destination des travailleurs au sein des entreprises, avec l'évolution du marché et les obligations de télétravail. Nous, des clients qui pouvaient commander 3, 4, 5 jours chez nous par semaine, sont retrouvés à pouvoir commander 1, 2 ou 3 jours au regard de ces obligations qui sont devenues une mutation de marché. On peut considérer que notre potentiel marché a été divisé par deux ou trois quasiment au regard de l'évolution de la présence des salariés en entreprise. S'ajoute à ça l'évolution de la législation sur les titres restaurants qui ont été ouverts à d'autres usages. Ça devait être provisoire, mais c'est reconduit parce que c'est aujourd'hui un moyen gouvernemental de pallier à des sujets en lien avec le pouvoir d'achat. C'est ajouté à ça toute la question de l'inflation sur l'énergie, puis de l'inflation sur les matières premières de manière générale. On commence à être de plus en plus impacté par tous les changements climatiques qui viennent impacter progressivement les ressources les unes après les autres. Alors pour l'instant, ça reste des produits un peu isolés, mais on se souvient de la rupture énorme qu'on a eue sur la moutarde suite à des incidents climatiques, notamment au Canada. S'en sont suivis des impacts sur l'huile d'olive, sur le miel. Maintenant, c'est le cacao qui dévisse complètement. On a d'autres sujets sur tout ce qui va être viande, ce qui va être le lait. Enfin bref, ce que connaît un peu tout le monde. Mais dès qu'on travaille du produit frais et le plus possible en local et en circuit court, plus on est impacté par tous ces aléas, notamment aléas climatiques. Et on a dû ouvrir une procédure auprès du tribunal de commerce pour se mettre sous protection du tribunal, geler la dette et pouvoir in fine la réarticuler sur une durée plus longue. On a un an de temps supplémentaire qui nous est offert grâce à cette procédure pour pouvoir générer la croissance suffisante, redémontrer cet équilibre et in fine pouvoir rembourser cette dette. Sachant que quand on est sur ce type de procédure, en sortie de procédure suite à cette période qu'on appelle la période d'observation, à partir de ce qu'on a été en mesure de faire, ce qu'on a pu démontrer à ce qu'on appelle les organes de la procédure en termes de robustesse financière, en fonction de ce qu'on a réussi à faire, on va proposer un plan de sortie et dans ce plan, il y a des mesures de réétalement de la dette. Donc la dette Covid, plus notre dette historique qu'on devait rembourser sur les 4 prochaines années à partir d'avril 2024. Cette dette-là qu'on devait rembourser sur 4 ans, là elle est gelée pour un an. Si on réussit à démontrer une solidité suffisante et que le plan est adopté, on a encore un an pendant lequel la dette reste gelée. On commence à la rembourser un an après l'adoption du plan. Et après, on peut décider de l'étaler jusqu'à 10 ans. Donc en résumé, une dette qu'on était censé rembourser en 4 ans, grâce à cette procédure, possiblement, on va la rembourser en 12 ans et non plus en 4 ans. Donc ça change quand même énormément la donne. Et là, sur cette dernière étape, cet ultime défi de la période 2020-2024, avec tout ce qui s'est passé dont je vous ai parlé, on a quand même réussi à consolider notre équilibre économique, à faire de la croissance. Il en manque un peu, il faut qu'on conforte cette croissance pour montrer patte blanche aux organes de la procédure et être sûr que ce plan de reprise et de sortie de redressement soit adopté. Et c'est pour ça qu'on a à nouveau mobilisé toute notre communauté, notre réseau de clients, etc., pour leur dire, voilà, on a encore besoin d'un coup de pouce. Alors, on a bon espoir de pas lever la main tous les 3 ans pour dire, les gars, on a besoin d'un coup de main. Mais là, voilà, on a besoin d'un nouveau coup de pouce pour venir conforter cette croissance qu'on était déjà en train de faire, la consolider et s'assurer qu'on soit en capacité de montrer patte blanche auprès des organes de la procédure.
Quelles sont les solutions alors pour vous maintenant? Comment on peut vous aider?
Alors plusieurs moyens. Il y en a un qui est, on a ressorti nos cookies. On a continué à faire des cookies depuis 2022 et ils étaient encore disponibles pour l'ensemble de nos clients et on avait des belles ventes. Mais on a ressorti les cookies comme un moyen de nous soutenir pour toutes les personnes qui sont OK en capacité d'acheter un peu plus chez nous, que ce soit nos clients existants ou d'autres personnes qui sont prêtes à se mobiliser et à acheter quelques paquets. Ça donne un signal fort à court terme sur notre capacité à mobiliser notre réseau et notre communauté. Et ça nous file un coup de pouce financier certain sur de l'activité court terme. Le deuxième enjeu pour nous, c'est de continuer à développer nos partenariats en contractualisant avec des entreprises qui font appel à nous pour leurs salariés, pour que leurs salariés puissent commander chez nous leur déjeuner. Donc c'est ce qu'on appelle notre offre cantine, c'est une forme de cantine digitale. Donc les entreprises payent un abonnement mensuel pour que leurs salariés puissent bénéficier de nos services, commander sur notre site. Donc c'est non exclusif, quand les salariés veulent commander ailleurs, ils peuvent le faire, mais ils peuvent commander chez nous et on distribue les commandes directement dans les entreprises. Donc ça leur offre de la flexibilité et sur cette offre, on a besoin des entreprises pour qu'elles nous choisissent comme tiers de confiance, parce que dès lors qu'on choisit tous les engagements qui sont les nôtres, il y a beaucoup de choix qu'on fait qui sont des choix invisibles, qui se voient pas dans l'assiette. Si je te donne un exemple, là, il y a encore quelques semaines, on regardait les cours pour réactualiser nos données, mais on trouvait de la patate douce d'Égypte à 1,20€ ou de la patate bio de la Drôme, donc à moins de 200 km, à 4€. Quand on choisit la patate douce bio à 4€ le kilo, ça se voit pas dans l'assiette. Certains diraient, au niveau du goût, c'est peut-être meilleur. C'est pas sûr. Bio, local, ça veut pas dire que c'est meilleur en goût. Par contre, en termes d'impact environnemental, en termes de ce que ça soutient aux endroits de l'agriculture et de notre souveraineté alimentaire à moyen long terme, c'est déterminant. Mais sur un choix court terme, si moi je veux être plus compétitif sur un marché hyper concurrentiel, c'est beaucoup plus facile de choisir la patate douce d'Égypte. Personne le voit. En plus, dans nos métiers de restauration commerciale, il y a très peu d'obligations de traçabilité des produits ou de transparence. Et puis, dès lors qu'on affiche un ou deux trucs marketing, un bout de label, une démarche X ou Y, ça donne l'impression d'être vertueux, là où les réalités de l'alimentation sont des réalités extrêmement complexes, où il y a des dizaines de surcouches de choix qu'on peut faire ou ne pas faire, qui sont très impactantes sur nos coûts et donc sur le prix qu'il faut qu'on vende au final et nous rendre moins compétitifs et qui pour autant ont des incidences sur le long terme à l'endroit de la société et de l'environnement qui sont déterminantes selon nous, en tout cas quand on regarde l'état de la société, l'état de l'environnement et les défis auxquels on est déjà confronté et auxquels on va être de plus en plus confronté, les choix long terme qu'on fait qui nous rendent moins compétitifs sont pour autant déterminants. Et en plus, pour une certaine part, invisible, donc très difficile à valoriser auprès du client final. C'est pour ça aussi qu'on a besoin des entreprises pour pouvoir rentrer dans le détail avec elles du niveau de choix qu'on fait en toute transparence, parce que ça se résume pas en une baseline marketing, pour qu'elles nous mettent en avant comme service impactant pour leurs collaborateurs et qu'elles puissent se servir aussi de nos rapports d'impact, des évaluations de nos impacts, possiblement pour mettre en avant leur démarche RSE et leur choix. Mais à court terme, c'est pas rentable pour elles de le faire. C'est juste un choix de société pour sortir de ce triangle de l'inaction. On se dit tous, ok, oui, c'est le consommateur qui doit faire ses choix. Le consommateur dit, oui, non, mais c'est le politique qui doit choisir. Et le politique dit, mais c'est aux entreprises de faire les efforts pour s'engager là-dedans. Mais au final, tout le monde se regarde, il se passe rien, parce que forcément, à court terme, ça coûte. Mais aujourd'hui, ce qu'on ne paye pas dans nos assiettes ou ce que la législation ne permet pas d'alléger en termes de coûts pour le consommateur final, en fait, c'est 20 milliards d'euros d'impact de l'alimentation sur la santé, c'est du retraitement de l'eau, c'est des coûts masqués, plus ou moins masqués de moyen long terme que le contribuable paye in fine en lien avec des choix court-termistes et délétères qui sont ceux de notre société. Et je reproche ça à personne, hein. Moi aussi, quand je me trouve face à deux produits qui se ressemblent un peu et qu'il y en a un qui est 30% moins cher, je peux facilement prendre le raccourci parce que ce que je vois, c'est ce que j'ai sur mon compte et ce qui va peut-être me rester ou non à la fin du mois. Donc, c'est des sujets extrêmement complexes. Et aujourd'hui, nous, on porte des choix et des engagements très forts. Ça nous demande d'être extrêmement organisés, très performants, de faire de l'amélioration continue en permanence pour ne pas être trop cher sur le marché, mais pour autant on est plus cher que nos concurrents et donc on a besoin aujourd'hui des consommateurs, des entreprises qu'elles s'engagent à nos côtés pour pouvoir continuer à conforter cette croissance et être encore debout demain. Voilà, c'est les deux choix principaux, les cookies c'est le court terme, les cantines d'entreprise sur des boîtes d'une centaine de collaborateurs sur la métropole lyonnaise, c'est le deuxième levier principal et qui est un levier de plus long terme. Et après, à titre particulier, nos clients peuvent souscrire à un abonnement qu'on appelle l'abonnement compagnon, donc ils démontrent d'un engagement dans la durée et ça leur donne certains avantages et certaines remises complémentaires. Mais on n'est effectivement pas sur des positionnements marketing comme on peut retrouver dans nos métiers où on t'affiche un prix facial et on te fait des promos dans tous les coins pour avoir des occasions de communiquer, de donner l'impression de faire la bonne affaire. Parce que comme on travaille sur un positionnement le plus juste possible sur l'ensemble de nos tarifs, on a beaucoup de moins de marge de manœuvre sur des leviers, promos, marketing, etc.
Retrouvez l'interview complète de Tom Thielet en podcast sur lyondemain.fr. Et pour aider Le Moulin, rendez-vous sur leur site lemoulin.fr.